Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Pendant combien de temps analysera-t-on les conséquences de la crise du Covid-19? Ce soir, on s'intéresse aux conséquences sur la natalité. Elles sont importantes. Ces derniers mois, a été constatée une chute historique de la natalité dans de nombreux pays du monde. En janvier, par exemple, moins 23% à Taïwan, moins 20% en Espagne, moins 13% en France. Entre craintes sanitaires, incertitudes économiques et climat globalement anxiogène, tous les observateurs sont d'accord sur ce point. C'est la crise du coronavirus qui constitue la grande cause de cette situation. Alors cependant, la réalité est diverse selon les régions du monde et nous allons l'évoquer dans ce décryptage. Que révèlent ces disparités? Est-ce que elles sont un nouveau marqueur des inégalités dans le monde? Et puis cette chute de la natalité, jusqu'où ira-t-elle? Et quelles conséquences sur l'équilibre mondial? Voilà nos questions ce soir. Bienvenue. Et pour répondre à ces questions, notre invité est Gilles Pison. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Alors pour commencer, je voudrais qu'on torde le cou à une idée reçue, parce qu'avec les confinements instaurés à partir du printemps 2020, et donc qu'on signifiait beaucoup plus de temps à la maison pour les couples, il s'est dit que cela pourrait provoquer un boom des naissances. Est-ce qu'un an plus tard, on peut dire qu'il s'est produit totalement l'inverse?
Alors oui, mais au départ, il y a un an, on se fondait sur une augmentation des ventes de tests de grossesse, en tout cas en France. Mais elle reflétait une hausse des grossesses non désirées, liée à des difficultés d'accès à la contraception pendant le confinement. Et en réalité, 9 mois après, les naissances baissent, comme vous l'avez rappelé dans votre premier propos.
Donc, à quoi on peut imputer cette baisse des naissances? C'est ça, c'est ce que j'ai dit, les craintes sanitaires, l'incertitude économique, le climat anxiogène, oui. Ce sont les trois grandes raisons, selon vous, qui êtes démographe?
Oui, et alors on peut faire le parallèle avec les crises économiques survenues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En général, une crise est souvent suivie d'une baisse des naissances un ou deux ans après, je parle des pays développés, et la montée du chômage, l'incertitude quant à l'avenir conduisent en effet une partie des couples qui souhaitent avoir un enfant à reporter leur projet à plus tard. Mais ce qu'on observe aussi souvent, c'est qu'une crise n'empêche pas les naissances, elle les reporte à plus tard et il y a souvent récupération en sortie de crise. En tout cas, c'est ce qu'on a observé pour les crises passées.
Donc, c'est ce qui peut se produire pour cette crise du coronavirus, qui est une crise sanitaire, mais également économique. Et ça peut être uniquement un report. Évidemment, je vais citer par exemple en Italie, un peu plus d'un tiers des Italiens qui avaient prévu d'avoir ou de concevoir un enfant en 2020, qui disent avoir reporté ce projet. Pour vous, ce n'est qu'un report, ce n'est pas un abandon.
Alors, c'est une question. Est-ce que ces naissances qui n'ont pas eu lieu vont avoir lieu plus tard? Alors, une partie des naissances, par exemple en Italie, c'est des couples qui ne se sont pas mariés alors qu'ils devaient se marier. Et c'est vrai que dans des pays comme l'Italie, mais l'Espagne, les naissances sont souvent ont lieu après un mariage. Et donc, le report des mariages entraîne un report des premières naissances. Alors, ce n'est pas vrai dans d'autres pays comme la France ou comme les pays du nord de l'Europe où la majorité des naissances ont lieu en dehors du mariage. Mais dans les pays où ce n'est pas le cas, comme l'Espagne ou l'Italie, le report des mariages a entraîné un report des naissances.
Est-ce qu'on peut parler de situation alarmante? J'ai donné des chiffres en amorce de cette émission. Moins 23%, c'est quasiment... un quart des naissances en moins à Taïwan au début d'année, moins 13,5% en France. Ça va continuer à baisser jusqu'où et que signifie cette baisse selon vous?
Alors, si on se base sur ce qu'on a observé lors des crises économiques passées, alors je sais que la crise actuelle, elle n'est pas seulement économique, elle est sanitaire, elle est sociale, mais pour les crises économiques passées, souvent on a observé un retour à la normale en sortie de crise et une récupération d'une partie des naissances qui n'ont pas eu lieu. Donc la question, c'est est-ce qu'on observera là aussi, quand on sortira de la crise, une récupération, alors totale ou partielle, des naissances? Et est-ce que on va revenir à la normale? Alors moi, je pense que probablement on va revenir à la normale, mais la question, c'est plutôt est-ce qu'il y aura récupération au moins partielle, des naissances qui n'ont pas eu lieu.
Alors, vous avez évoqué l'incertitude économique, hein, l'un des grands facteurs justement de ces reports de projets de naissance, évidemment dans ce contexte de crise du Covid. Je vous propose de partir au Japon, où au Japon, il est coutume, bah, vous l'avez évoqué, comme dans d'autres pays d'ailleurs, de se marier avant d'avoir des enfants. Et donc, pour favoriser les unions et donc par conséquent, eh bien les naissances, le gouvernement japonais a décidé en fin d'année dernière d'octroyer une prime au mariage de 600 000 yens, c'est un peu plus de 4600 euros tout de même. Mais c'est pas suffisant pour convaincre ces jeunes Tokyoïtes rencontrés par notre correspondant.
Me marier ? Là, je ne vois pas bien qui voudrait m'épouser. Je gagne si mal ma vie.
Pareil pour moi, je suis tout sauf un bon parti. Et vu le coût de la vie à Tokyo, ce ne sont pas mes 600 000 yens qui feront la différence.
Cette prime paierait juste une partie de la cérémonie du mariage ou du déménagement. Ce serait déjà ça. Mais ensuite, comment faire pour joindre les deux bouts ? Ce dont les jeunes mariés ont besoin, c'est d'une aide financière à long terme.
Gilles Pison, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut évaluer la raison économique qui pousse des couples à repousser ou à abandonner leur projet d'enfant ?
Alors, ça varie selon les pays, parce que dans les pays, alors comme la France, mais aussi les pays du nord de l'Europe, qui ont développé des politiques familiales et sociales importantes, eh bien, la baisse des naissances va être probablement moins importante et en partie amortie que dans les pays qui n'ont pas de politique familiale et sociale ou pas aussi importante. Et c'est le cas des pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. On l'observe déjà, les baisses de naissances sont sensiblement plus importantes dans le sud de l'Europe que dans le nord. Alors, ça tient à plusieurs facteurs. D'abord, l'impact de l'épidémie en termes de mortalité a été plus fort dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du nord. Ces pays déjà avaient une fécondité moindre, les femmes avaient moins d'enfants que dans le nord de l'Europe déjà depuis plusieurs décennies. Et puis, par ailleurs, ils ne disposent pas de politique familiale aussi importante. Donc, au total, les écarts entre le nord et le sud de l'Europe en termes de fécondité, donc les femmes ont plus d'enfants au nord de l'Europe qu'au sud, risque d'être exacerbé avec l'épidémie.
Mais en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites, il y a vraiment un lien entre la crise sanitaire vécue par les pays et la baisse de la natalité, parce que vous citez la différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, elle est assez impressionnante. Par exemple, je vais citer l'Islande, 29 décès entre guillemets seulement imputés au Covid, il y a eu une hausse des naissances en 2020, alors que dans beaucoup de pays d'Europe du Sud, on l'a cité, il y a une baisse. Donc, il y a un lien direct selon vous ?
Oui, alors cette crise révèle les contrastes de fécondité d'un pays à l'autre qui tiennent en partie au statut social des femmes. Dans les pays du nord de l'Europe, le partage des tâches entre les hommes et les femmes et la place des femmes dans la société, le taux d'activité des femmes est plus élevé que dans les pays du sud de l'Europe, où il y a une inégalité entre hommes et femmes, à la fois au travail, la proportion de femmes qui travaillent est nettement plus faible que celle des hommes, et aussi à la maison, où le partage des tâches est inégalitaire. Et on sait maintenant que le nombre d'enfants que les couples ont est en relation avec ce partage des tâches et ces inégalités entre hommes et femmes. Les femmes ont le plus d'enfants dans les pays où il y a le plus d'égalité entre hommes et femmes, même s'il reste toujours des inégalités, et elles ont le moins d'enfants dans les pays où les inégalités sont les plus fortes. Alors en Europe, c'est au sud de l'Europe.
Alors justement, vous citez le nombre d'enfants. On estime que le seuil de renouvellement des générations, vous me dites si vous êtes d'accord avec cette estimation, Gilles Pison, c'est 2,1 enfants par femme. Et aujourd'hui, en Europe, ce chiffre, c'est 1,6 enfants par femme.
Oui, alors ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies qu'en Europe, on est à ce niveau de 1,6 enfants par femme, donc inférieur à 2 enfants ou 2,1 pour assurer le remplacement à terme des générations. Alors, pour ce qui est de la population de l'Europe, elle ne diminue pas parce que l'excédent des décès sur les naissances, et on l'observe actuellement depuis quelques années, il est plus que compensé par l'entrée des immigrés qui est plus importante que les départs des émigrés. Et donc, l'immigration fait plus que compenser le déficit des naissances par rapport aux décès, et donc la population de l'Europe continue à augmenter. Mais dans un pays comme le Japon, où on a une situation un peu similaire, c'est-à-dire que les décès dépassent largement les naissances, eh bien, il n'y a pas d'immigration comme en Europe pour compenser ce déficit des naissances, et la population diminue.
Alors, j'ai justement sur l'immigration une donnée qui peut aller à l'encontre de ce que vous nous dites. Ça va être intéressant d'écouter votre réaction. Gilles Pison, par exemple, au Québec, où la démographie est en baisse de 3%, ce qui est historique pour cette province du Canada, au Québec, un tiers des bébés vient de couples comptant un immigrant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut faire le lien ou est-ce que c'est trop tôt ? Parce que là, on est un an après le début des mesures de confinement, des premières mesures de confinement, de la première vague du Covid. Donc, on peut déjà faire le point sur les conséquences sur la natalité.
Oui, alors, la part des immigrés dans la population du Québec est importante. Le Québec, comme le Canada, est un pays d'immigration important. Alors, si on compare avec la France, mais qui est également un pays d'immigration importante, la part des immigrés dans l'ensemble de la population est un peu plus faible en France, mais les immigrés comptent de façon importante dans les naissances, et ça, il faut pas le cacher. Mais avec ça, si la France a la fécondité la plus élevée d'Europe, c'est pas tellement par la présence des immigrés, il y a des immigrés partout en Europe, c'est par la forte fécondité des natives, donc des femmes qui sont nées en France. Et donc, là aussi, cet apport de l'immigration dans les naissances, il faut le souligner, mais il n'explique pas les contrastes de fécondité d'un pays à l'autre.
En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a des éléments qui compensent, donc comme l'immigration, qui compensent la baisse de la natalité observée massivement dans de nombreux pays du monde, aux États-Unis, en Europe, et donc qui menacerait pas l'équilibre mondial, parce qu'on a commencé à évoquer les conséquences sur les retraites, les écoles qui pourraient fermer. On a parlé de classes creuses avec cette chute de natalité.
Oui, mais alors il faut faire la part des choses, parce qu'on vit une période un peu particulière avec une baisse des naissances importante, mais qui est probablement temporaire, partiellement temporaire. Donc en sortie de crise, on devrait revenir à un niveau de naissance et de natalité qui correspond à celui d'avant la crise, même si les tendances lourdes vont se poursuivre. Et donc, je pense que l'impact au total de la période d'épidémie va être plus modeste que ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire que les tendances de long terme vont reprendre, et elles sont ce qu'elles sont, ce qu'on vient de dire. C'est que en Europe, les décès sont plus importants que les naissances, et cela va augmenter puisque arrivent aux âges élevés les générations nombreuses nées pendant le baby boom. Et donc, mais ça ne veut pas dire que la population de l'Europe va diminuer, puisque cet excédent des décès sur les naissances, comme je l'ai dit, est plus que compensé par l'immigration.
Décryptage sur RFI. Romain Ozoui.
Crise du Covid et baisse de la natalité ce soir dans Décryptage. Le phénomène est important, mais la reprise viendra, vous nous dites ce soir. Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à une situation qui est inverse, à savoir les pays où la crise du coronavirus, au contraire, a provoqué une augmentation du nombre de naissances. Par exemple, aux Philippines, où le taux de natalité a bondi de plus de 12% en ce début d'année par rapport à la même période en 2020. Comment on analyse ce genre de données, Gilles Pison ? C'est pas toujours une bonne nouvelle. Ça peut être un synonyme d'aggravation de la pauvreté parce qu'il s'agit souvent de grossesses non désirées.
Ah ben c'est un vrai souci, parce que l'épidémie a entraîné une désorganisation d'un certain nombre de services publics, notamment des services qui offrent des moyens de contraception. Donc, une partie des femmes ou des couples qui étaient sous contraception ont eu des difficultés à renouveler, à continuer, et du coup, sont survenues des naissances non désirées. Alors que donc la fécondité était en baisse dans tous ces pays, eh bien, on va avoir une remontée temporaire, il faut l'espérer, des naissances, dont des naissances non désirées. Donc, c'est un vrai souci. Et à l'échelle mondiale, cet excédent de naissances, donc des naissances non désirées, probablement va plus que compenser les baisses de naissances dans les pays développés qui n'ont pas ce problème ou pas à ce niveau-là.
Et donc aggraver dans la pauvreté dans le monde. Illustration en Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde. En Indonésie, on cherche à maîtriser les naissances. Écoutez, Dwi Listia Wardani, directrice du contrôle des naissances au planning familial.
Le baby boom va toucher toute l'Indonésie, les villes comme les campagnes. Partout, il y a eu des soucis d'approvisionnement des moyens contraceptifs. Et partout aussi, pendant cette pandémie, le personnel soignant a donné la priorité aux malades du coronavirus. Et en plus de ça, les gens avaient reçu l'ordre de ne pas aller à l'hôpital ou à la clinique, sauf en cas d'urgence. Et puisque le gouvernement a demandé aux Indonésiens de rester chez eux, de travailler chez eux, ben cela a généré des interactions plus longues entre les maris et les femmes, et ça peut causer des grossesses. Potentially lead to pregnancy.
Alors, vous l'avez évoqué, Gilles Pison, hein, le manque d'approvisionnement des moyens contraceptifs. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime que 12 millions de femmes n'ont pas eu accès aux méthodes modernes de contraception en raison de rupture de stock au printemps 2020, donc lors de la première vague du Covid. Ça nous amène à évoquer la situation sur le continent africain, parce que cela concerne évidemment l'Afrique. C'est une des causes de grossesses non désirées provoquées par la crise du Covid.
C'est un vrai souci, et donc il faut espérer que très vite des efforts soient faits pour assurer l'accès aux moyens de contraception. Et donc, c'est un peu dommage parce que tous ces pays étaient sur la voie de la fécondité maîtrisée. Donc, de plus en plus de couples dans ces pays avaient le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient et donc pouvaient éviter d'avoir des grossesses non désirées. Et là, on a un retournement, il faut l'espérer, temporaire. Donc lié à l'épidémie de Covid-19, mais c'est un vrai souci dont sont pas conscients les pays du Nord.
Oui, parce que la réalité est complètement différente, parce qu'on s'inquiète dans les pays du Nord d'une baisse de la natalité. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur la situation en Afrique, justement ces grossesses non désirées, grossesses de mineurs en forte reprise dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, c'est ce qui en ressort, hein. On a cité l'Éthiopie, le Kenya ou le Malawi. Ça risque encore d'aggraver la pauvreté sur le continent.
Alors, il faut savoir, c'est que la tendance générale, c'est en Afrique, donc à avoir de moins en moins d'enfants. Les femmes, d'après les statistiques des Nations Unies, ont 4,5 enfants en moyenne en Afrique. Donc, c'était nettement moins qu'il y a 40 ans. C'était 6,5 enfants en moyenne, qu'il y a 20 ans, 5,5 enfants. Donc, la fécondité baisse et les femmes, les familles ont de plus en plus les enfants qu'ils souhaitent. Donc, les naissances non désirées sont évitées. Mais ce mouvement-là, en effet, est enrayé temporairement, il faut l'espérer, par les difficultés, les désorganisations des services d'accès aux contraceptions. Mais je pense que la tendance va se poursuivre parce qu'elle est inexorable. En Afrique, comme ailleurs, les familles souhaitent avoir peu d'enfants, mais assurer le meilleur pour les enfants, donc une bonne éducation, un bon métier, une vie meilleure que les parents.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques. Merci à Éléonore Krenik à la préparation du décryptage, Claude Battista à la réalisation. Merci à la documentation, à la sonothèque de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Guillaume Notin, dans un instant, le débat du jour.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informez.